France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, le bug de l'an 2000. Épisode 2, la catastrophe qu'on n'attendait pas. Remettons-nous dans l'ambiance de ces derniers jours de 1999. On s'attendait à une tempête venue de l'intérieur de nos systèmes informatiques, du tréfonds de nos ordinateurs. On envisageait un monde à l'arrêt, bloqué par deux petits chiffres manquants. On s'était préparé pour le chaos technologique. Mais ce qui est arrivé est une tempête d'un tout autre type. Une tempête à l'ancienne, sans 0 et 101, sans disque dur, sans unité centrale. Une bonne vieille tempête, particulièrement dévastatrice.
France Inter.
Nous sommes chez Hervé et Isabelle cette nuit en plein Paris. Leur chambre est sous les toits, au-dessus de leur tête une lucarne. Couchés sur leur lit, ils sont aux premières loges pour regarder la tempête. Écoutez.
Moi j'étais au lit et j'avais une lucarne juste au-dessus de mon nez. Et je voyais les nuages passer à une vitesse dingue. Je voyais des objets passer et je voyais des éclairs. J'entendais le soufflement du vent. Et alors moi j'ai pensé aux gens qui étaient en mer. J'ai pensé aussi à la marée noire qui devait être accélérée par ce phénomène.
On se réveille, il me dit, il regarde par la fenêtre, il me dit « Tu sais qu'il y a un toit qui vient de s'écrouler ?» Oh, je dis « Écoute, laisse-moi dormir. Hein. » « bien sûr, il y a un toit qui s'écroule. » « Si, si, je t'assure, il y a un toit qui s'est écroulé devant notre fenêtre. » Moi, je regarde et en effet, tout le toit était défoncé. Donc, c'était pas du baratin.
Plus que par Internet, c'est par la mer que la catastrophe arrive finalement. D'abord avec une marée noire qui fait suite au naufrage le 12 décembre de l'Erika, un navire pétrolier pris dans une mer trop grosse. Puis la tempête Lothar qui traverse la France et la Suisse avec des rafales atteignant jusqu'à 200 km par heure. L'ouragan fait 160 morts. L'approche du millénaire se fait décidément angoissante.
Bah, la fin du millénaire, il y a le souvenir, lorsque je vivais déjà en l'an 1000, donc la grande peur de l'an 1000, c'est assez impressionnant.
Ça, vous vous en souvenez?
Ça a été, oui, je m'en souviens très bien, et ça a été assez impressionnant, cette panique qui s'est emparée du populo. Alors, la fin de siècle, on assimile ça toujours dans sa tête, je crois, à la fin de race, je sais pas pourquoi. Bon, alors fin de siècle, ça a comme une connotation de décadence et de fin des haricots.
Ouais.
Mais personnellement, ça ne me touche guère.
Et dans vos souvenirs des années 1000, il faisait froid dans le monde?
Bah, il a toujours fait pas très chaud, je crois. Et il y avait à ce moment-là beaucoup d'incendies par-ci, par-là. Et il y a toujours des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid.
Alors que Brigitte Fontaine délire poétiquement, le parc de Versailles est dévasté par la tempête. Au total, 18 500 arbres seront déracinés ou devront être abattus. Mais rien, pas même cette tempête du siècle, ne peut arrêter le temps ni le décompte vers la date fatidique. À l'image de ces minuteries qui commandent les explosifs dans les films catastrophes, les horloges informatiques ne peuvent être stoppées sans risque. Il faut choisir entre un fil rouge ou un fil bleu et cela donne des sueurs froides aux spectateurs. Mais le président de la mission Passage informatique à l'an 2000, Gérard Théry, lui, est confiant.
Gérard Théry, malgré tout, on voit que 22% des Français sont angoissés par ce passage à l'an 2000. Vous vous sentez pas un peu responsable de cette angoisse ?
Écoutez, à côté d'autres pays où on constate des comportements qui sont tout à fait irrationnels, si vous voulez, qui vont pas jusqu'à la panique, mais enfin, des gens qui s'achètent des kits de survie, c'est grotesque. Je dirais que les Français sont plutôt calmes. Les Français sont généralement des gens assez réalistes dans leur façon de se comporter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne négligent le passage à l'an 2000, mais je dirais que ils sont rationnels.
Donc. Gérard Théry, votre terreur d'ici les 50 jours qui viennent, les 31 décembre, c'est le microprocesseur caché quelque part qu'on n'aurait pas vérifié?
Ben, c'est celui qu'on n'aurait pas débusqué, si vous voulez. Bon, enfin, encore une fois, je le rappelle, notre niveau de préparation est bon.
Vincent Balloué, vous êtes le fondateur de l'entreprise Maîtrise maîtrise des crises. Vous avez piloté le projet en 2000 pour le CIGREF, une association de promotion du numérique en entreprise. Est-ce que vous vous souvenez de l'atmosphère dans les milieux de l'économie et de la politique en 1999, qui avait quand même, et surtout à la fin, on vient de l'entendre, des allures un peu apocalyptiques?
Alors, apocalyptique, pas tout à fait. Il y avait beaucoup d'apocalyptique dans tous les propos qui visaient le grand public. Mais là, on est dans un milieu professionnel. C'était une affaire d'ingénieur. Et donc, on a bouclé les opérations, on a tout vérifié. Juste un chiffre en passant, 5 milliards d'euros de l'époque ont été consacrés juste à tester qu'il ne se passe rien.
À tester? Comment on teste qu'il ne se passe rien?
Eh ben, on vérifie que ça fait pas de problème. On vérifie avec l'ancien système qu'on a les bons résultats et les bons calculs de date, une paye se déroule correctement, etc. Puis on met la nouvelle version corrigée et on vérifie que ça fait la même chose. 5 milliards d'euros. Quand même. Donc c'est pas étonnant que ça se soit plutôt très très bien passé et qu'on ait eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire des problèmes tout à fait résiduels.
Est-ce que ça aurait pas coûté moins cher finalement de mettre dès le départ les deux chiffres en plus?
Non, ça c'était pas techniquement c'était pas jouable parce que c'est un problème de place et d'électronique si vous voulez qui remonte dans les années 60. Hein. Le développement de l'informatique moderne, ça remonte avec le programme Apollo, donc il faut quand même remonter un tout petit peu. Et nos amis astronautes sont allés dans l'espace avec 3 calculettes, 4 opérations, hein, c'est à peu près ça. Donc il était hors de question de stocker quoi que ce soit qui sert à rien. Et en 1960 et 70, le 19 de nos dates ne servait vraiment à rien, donc non.
Vous êtes occupé pendant 7 ans de la préparation du bug de l'an 2000. Ça consistait en quoi de s'occuper de cette préparation?
Donc disons, les 3 premières années, c'est découvrir et comprendre. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc? À quoi ça ressemble? Quels sont les effets très dévastateurs d'avoir une échéance fixe, mais fixe dure? Absolument inamovible. La mise en place de l'euro, s'il y avait une guerre thermonucléaire partout, on faisait pas l'euro. L'an 2000, pas question. C'est très très rare.
Mais c'est une motivation aussi.
Oui, mais ça a beaucoup d'effets secondaires. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'autorité, du coup. Ça veut dire que des projets absolument stratégiques qui passent pas avec ce truc-là vont être obligés d'être reportés.
Il y en a eu, par exemple?
Oui, un peu partout. Dans la banque, la mise en place du RIB unique a été reportée. Après, on rentre dans le détail, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont décalé des tas de projets internes pour laisser passer l'an 2000 euros, parce que ça rentrait pas, quoi. Donc, les 3 premières années, en gros, on essaie de comprendre. Les 3 suivantes, ça a été les années du début de la mobilisation, et les 2 dernières, le rush et la dernière ligne droite, pour utiliser des formules. Voilà.
Si on remonte encore un peu... Avant cela, Vincent Balloué, à quel moment est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes rendu compte qu'il allait...
Il y avait un problème en octobre 1992, en auditant un constructeur automobile que tout le monde connaît, qui s'appelle Peugeot, tout simplement, et qui me dit, nous, on peut pas faire des prêts immobiliers et des prêts bancaires pour les automobiles au-delà de l'an 2000, parce qu'on n'a pas les composants IBM qui permettent de le faire. Ils sont pas en vente. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas le faire. Et là, ça a fait tilt tout de suite chez moi. Pas trop pour l'affaire technologique, programmation, codage, comment on fait pour bricoler un truc qui marche. Mais c'est l'aspect mobilisation mondiale que j'ai plutôt intuité dès le départ. Et en disant comment on va faire pour faire tourner la tête à tout le monde, faire les choses avec une culture d'ingénieur, c'est-à-dire on teste, on vérifie que ça marche pas, on corrige, on vérifie que ça marche, c'est bon.
C'est un peu vertigineux de se rendre compte de ça?
Oui, parce que en 1993, on a fait des calculs de coin de table, vraiment approximatifs, et on a calculé que on n'avait pas assez d'ingénieurs dans le monde pour tenir les délais. C'est-à-dire qu'il y avait trop de problèmes, trop de quantité de problèmes à régler pour que, avec l'ingénierie disponible, on puisse régler le problème. Ça passait pas du tout, mais de loin. Et donc, on n'a pas fait de manière massifiée les corrections partout. On a simplement corrigé ce qui était le plus critique, c'est-à-dire qu'on a fait de l'analyse de risque devant. Et en gros, tout ce que les informaticiens appellent le cosmétique, c'est-à-dire ce qui se voit mais qui ne fait pas de dégâts derrière, on l'a pas corrigé, ça n'a jamais été fait. Et tout ce qui engageait la vie d'une banque, la vie d'un ministère ou quoi que ce soit, ça a été super testé et c'est pour ça que ça s'est bien passé à la sortie.
Au moment où Vincent Balloué commence à se pencher sur le sujet du bug, la France ne s'intéresse pas encore vraiment à l'an 2000, qui paraît toujours très loin décidément, comme on l'entend dans cette archive de 1993.
Je vois que vous regardez l'horloge, non ?
Enfin, on la connaît, oui.
Vous la connaissez ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez me dire ce que c'est ?
Ben, c'est le temps qui reste pour arriver à l'an 2000, c'est ça ? D'accord, le nombre de secondes.
Et combien de temps il nous reste ?
Ben, écoutez, alors ça, en secondes, ça fait combien de millions, ça ?
Beaucoup de millions.
C'était 219 millions de secondes. C'est ça, 219 millions de secondes.
785
871 secondes.
C'est important pour vous, l'an 2000 ?
important, plus ou moins, parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à l'an 2000. Tout peut arriver.
Vincent Malouet, la France en 1993 n'est pas du tout inquiète. Là, on a entendu de simples citoyens sur un micro-trottoir, mais les dirigeants non plus ne sont pas inquiets.
Ah non, 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 le sujet n'est pas du tout sur la table. Il y a quatre personnes en France qui s'en préoccupent un petit peu. Et donc, la préoccupation n'existe absolument pas. Et le sujet est complètement ignoré de tous ceux qui n'ont pas un minimum de culture informatique. Donc, c'est très clair, on a la tête ailleurs.
En 1997, François Fillon était ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace. On est 3 ans avant le risque du bug de l'an 2000. Est-ce qu'il fait quelque chose?
Et non, il a enterré le sujet et il est parti avec au moment de la dissolution. Et donc, on s'est retrouvé avec un gouvernement tout neuf. Et donc, c'est Christian Pierret qui a pris la suite et qui a, parce qu'il y avait le problème de l'an 2000, a inauguré l'Assemblée Générale du CIGREF au mois de septembre. Et je lui ai remis en main propre avec mon président 2 exemplaires du rapport, parce que nous, on avait déjà presque bouclé la préétude, si vous voulez, et la méthodologie. Et on lui a tout remis, tout ficelé, en lui disant, maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça, quoi.
Aux États-Unis, la prise de conscience du problème a également pris du temps. Il faut attendre un article de Peter de Jaeger, le 6 septembre 1993, pour que les autorités commencent à y prêter une oreille plus attentive. Cet article, il s'appelle Doomsday, titre qu'on peut traduire par jour tragique ou date fatidique. Il est un peu alarmiste puisqu'il annonce le crash de l'informatique mondiale comme étant sûr et certain. Pour Peter de Jaeger, le coût de ce bug pourrait s'élever à 70 milliards de dollars. Nous ne savons pas ce qui va poser problème, dit Peter de Jaeger dans son article, citant des pannes affectant les alarmes incendies, les thermostats ou encore les ascenseurs. Pour cette raison, conclut-il, ce sont tous nos systèmes qu'il va falloir mettre à jour. Vincent Malouet, pouvez-vous nous dire un peu qui est cet homme, Peter de Jaeger, qui semble être un lanceur d'alerte, d'alerte américain sur le bug de l'an 2000?
Donc lui, c'est un informaticien. Il vient du monde de l'informatique. Il vient pas du monde du risque ou de l'assurance. Il vient de l'informatique. Et il écrit le premier article. Et il bénéficie, alors c'est pas du tout pour relativiser ses efforts, il bénéficie de la langue anglaise. C'est-à-dire que quand il écrit son premier papier en langue anglaise, évidemment, ça a une répercussion. L'informatique est une discipline qui est extrêmement sous l'emprise anglo-saxonne. Tout se passe en anglais. Donc c'est lui, si vous voulez, qui a mis le feu aux poudres pour dire les choses.
Et comment est-il aux États-Unis pris en compte cet article? Est-ce qu'il a des difficultés finalement à imposer problème?
Alors ça s'est passé un peu différent. Alors non, parce que d'abord le rapport au risque des Américains est très différent du nôtre. Alors si on a une minute là-dessus, ça s'explique par, historiquement, presque génétiquement, par la position géographique de la France. La France, elle est au 45e parallèle, on a l'Atlantique devant nous, avec un climat extrêmement plaisant. Il fait chaud mais pas trop, il fait froid mais pas trop, il n'y a jamais de tremblement de terre, il n'y a pas trop de tornades, pas de tempêtes, pas de tout ce que vous voulez. Et donc la nature, ça pousse bien, les arbres poussent sans problème, les choux et les patates aussi. Enfin, voilà. Alors, il y a de la dérive climatique, mais enfin, en gros, ça va bien. On est dans un pays confortable, et donc on a un rapport au risque qui est très distancié. La nature ne se fâche pas comme là-bas, où il y a des grosses tornades, de la neige, de la terre qui tremble, des volcans qui menacent de péter, quand c'est pas des incendies sur la côte ouest, etc. Donc le risque fait partie beaucoup plus de l'univers au quotidien de nos amis américains, et donc quand il y a un risque, ils écoutent. Alors que quand nous on a un risque, on dit ouais ça va, de toute façon rien de grave va arriver. Ça provient très profondément de la situation géographique de la France, sur laquelle il n'y a rien à faire, évidemment.
En 1998, c'est finalement le gouvernement de Lionel Jospin qui va prendre la mesure des choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Vincent Bell?
Christian Pierret arrive, enfin il est nommé suite à la dissolution, donc Jospin passe Premier ministre, il nomme un ministre des Finances qui est donc Dominique Strauss-Kahn, et donc Christian Pierret et Marie-Louise de Branchu sont respectivement à l'industrie et à la consommation PME, et donc on leur écrit tout de suite, on leur dit attention, il n'y a plus de temps à perdre, sinon les hôpitaux, les administrations, les ministères, la sécurité sociale, votre numéro de sécurité sociale, les dates sont sur deux positions, regardez-le de près. Et toute l'informatique est comme ça. Donc il n'y a rien qui passe à l'époque, hein, rien. Donc il faut vraiment se grouiller, et donc c'est ça qu'on lui dit, et donc Dominique Strauss-Kahn comprend très très bien le truc, et donc il met quelqu'un aux manettes de ça, et voilà.
Et pour se rendre compte de l'ampleur de ce que ça représente, est-ce que tous les informaticiens de France, à un moment donné, se sont posés de près ou de loin la question?
Alors, tous, non. Ce qu'il faut qu'on comprenne quand même, c'est que le monde informatique de l'époque ne ressemble pas tout à fait à celui d'aujourd'hui, à commencer par l'inexistence d'Internet. Aujourd'hui, avec votre téléphone et votre ordinateur, vous avez un petit bouton qui s'appelle mise à jour, vous appuyez là-dessus et ça se débrouille. Nous, on n'avait pas ça, et donc il faut bien qu'on voit qu'on a dû corriger à la main à la main, dans le monde, tous les ordinateurs de la planète, parce qu'on n'était pas capable de les mettre à jour automatiquement.
À la main, ça veut dire quoi concrètement ?
Ah bah, à la main, ça veut dire à une personne par ordinateur, on va dedans et on fait la correction à la main.
Donc sur chaque ordinateur ?
Sur chaque programme ? Ah oui, il a fallu. Et on n'envoie pas un automatisme qui fait des miracles tout seul, comme on fait aujourd'hui avec nos smartphones qu'on met à jour en permanence. La mise à jour automatique est une invention qui a été issue du bug de l'an 2000. IBM, Microsoft et les autres ont dit plus jamais ça une deuxième fois, plus jamais. Donc on va créer un système pour mettre à jour les ordinateurs automatiquement.
La caravane installée depuis ce matin place du Pin à Agen n'était pourtant pas des plus discrètes. Mais c'est clair, le bug de l'an 2000 n'attire pas les foules. Néanmoins, ce crash généralisé de certains ordinateurs et logiciels est bien réel et risque d'être très onéreux pour les PME et PMI. Mais qu'on se rassure, 8 gros camions podium bug de l'an 2000 et son personnel visitent déjà 120 villes en France jusqu'en juillet. Seuls les Picards et les Basques seront épargnés. La campagne nationale, spot de pub et presse inclus, a coûté 100 millions de francs payés par les finances publiques. Mais on pensera sûrement un jour à présenter la facture aux responsables de logiciels et de matériel bogué.
Alors là, on est en juin 1999. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cette
alors, c'est l'été
reportage
99,
de France 3
oh, je m'en souviens très bien. C'est l'été 99. En fait, la mission Terry, Gérard Terry a été nommé l'été précédent. Et au début, disons que ça a patiné un petit peu, pour être gentil. Et donc, Dominique Strauss-Kahn s'est fâché. Et il a créé le comité national du passage à l'an 2000, dont la première réunion a eu lieu en janvier 1999. On est à 11 mois du truc. Hein.
Donc on est en retard.
Ah, c'est juste, oui. C'est juste. Alors les travaux ont démarré partout. Ça ne veut pas dire que sans un feu vert ministériel, rien ne se passe. Non. Mais il faut quand même y aller. Et puis il y a une autre question aussi, c'est de rassurer nos partenaires étrangers, notamment les États-Unis et les marchés financiers, à qui il faut dire « on a compris ». Et précisément l'été 1998, pardon, je rembobine un tout petit peu, nos amis américains qui avaient de furieux doutes sur notre compréhension, et pas que nous, il y avait les Italiens et puis nos amis allemands aussi qui étaient dans le collimateur, nous envoyaient quand même une délégation sénatoriale.
Pour vérifier qu'on faisait bien le travail.
Pour vérifier qu'on avait bien compris. Et ils ont très clairement dit, moi-même j'ai été appelé par les services de renseignement américains à l'époque en disant bonjour, ils n'ont pas dit c'est la CIA, mais enfin c'est l'ambassade des États-Unis, on veut savoir ce que vous faites. Quand même. Donc ça, c'était en mai 1998. Ils sont venus ici pour savoir si, oui ou non, ils maintenaient les participations des fonds de pension américains dans l'économie française. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout en train de plaisanter.
Donc, au fond, la campagne de communication, elle est moins tant en direction des Français que en direction du monde, voire du monde économique.
Alors, elle
pour
est
montrer
à deux.
Que
vous
on
avez
prend
raison.
Le projet.
Oui,
à
alors vous avez raison. La campagne de Cob Terrain, donc les fameuses caravanes dont on parlait là, était à destination des artisans. C'est les tout petits PME dans les villages qui ouvrent une caisse, un terminal de paiement, enfin quelque chose. Il faut quand même poser la question à chaque fois. Il y a rien de compliqué. Hein, c'est pas le bug d'ennui, c'est facile, hein, mais il faut le faire. Et donc, pour corriger la masse des PME, il faut quand même une campagne de com. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, ça sert. Primairement, si vous voulez, ça sert d'abord à ça. Mais en background, en derrière, bien sûr, ça sert à rassurer nos amis américains, surtout. Al Gore, à l'époque, qui est le vrai patron de l'an 2000 dans l'administration Clinton, il est vice-président des États-Unis.
Il connaît bien les autoroutes de l'information, c'est
oui,
son
oui,
grand
bien
sujet.
Sûr, absolument. Donc, il connaît ça très très bien. Et donc, lui, il a mis sous tension la Situation Room, qui est dans les sous-sols de la Maison-Blanche, dans lequel il y a le dossier France, Allemagne, Espagne, Italie, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, lui, il veut savoir si ça passe ou ça casse, quoi. En gros, c'est ça qu'il veut savoir. Et il nous le fait comprendre.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de la réalité du problème ou qui contestaient la réalité du problème du passage à l'an 2000?
Alors, dans le monde professionnel et l'ingénierie, non, fort heureusement, parce que c'est tellement facile à démontrer que ça passe pas. Pour le grand public, je pense très honnêtement qu'aucun effort n'a été fait pour vendre le truc, si vous voulez, en termes de dépenses publiques. Donc là, mais à quoi bon, à quoi ça sert? Nous, on avait un sujet technique extrêmement bien délimité à faire, très facile à tester avant et très facile à tester après. On n'a pas besoin de plus que ça.
Parce qu'après, des théories du complot sont venues dire, par exemple, que beaucoup d'informaticiens, d'entreprises, avaient gagné beaucoup d'argent
sur le bug
de l'an 2000 et qu'au fond, le bug de l'an 2000 n'était pas arrivé.
Alors, la deuxième partie de votre phrase est fausse, la première est vraie. Quand vous avez une crise qui se développe, il y a toujours des abus. Pourquoi ? Parce qu'une crise déstabilise un état stable. On parlait de la tempête tout à l'heure. Quand il y a eu de la tempête, figurez-vous que ce n'est pas les logiciels qui ont coûté cher, mais c'est les tuiles faîtières, vous vous souvenez, sur les toitures, dont le prix s'est complètement envolé. Pas avec le vent, mais les prix tout court. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et donc, forcément, quand vous avez une inondation, un crash, n'importe quoi, qui déstabilise un état stable, vous avez des abus. Et puis forcément un peu de gens mal intentionnés. Donc est-ce qu'il y a eu des abus? Oui. Est-ce qu'il y a eu des arnaques? Peut-être. Est-ce que certains en ont profité? Sans aucun doute. Voyez, voilà. Est-ce qu'il fallait le faire quand même? Bien sûr que oui. Est-ce que tout ceci était faux? Non.
On peut anticiper beaucoup de crimes d'incendies volontaires, comme ce qui est arrivé durant les émeutes de Los Angeles. On peut anticiper que beaucoup de personnes n'auront pas de nourriture, ni d'eau, ni d'électricité. Peut-être qu'ils auront perdu leurs économies parce que le système bancaire se sera effondré.
Vincent Balouet, il y avait ceux qui n'y croyaient pas, puis il y avait ceux qui y croyaient peut-être trop. Je pense aux survivalistes, en particulier aux États-Unis. Oui. On a vu des reportages
absolument
avec des personnes qui anticipaient le danger en se cachant dans des retraites comme ça au milieu du désert. Oui. C'est moins arrivé quand même en Europe.
C'est pas
France.
Du tout arrivé, et singulièrement chez nous, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que chez nous, on a un rapport au risque qui est extrêmement distancié. Donc on dit oui, ça va, la catastrophe ne arrivera pas. Parce qu'il y a un état protecteur, parce que c'est tout ça. Parce que le climat est gentil. Là-bas, ils font face au risque. Quand vous appuyez sur le bouton, vous êtes au milieu de l'Utah et vous appelez sur le bouton police ou gendarmerie, si vous voulez, ils mettent deux jours à venir. Donc vous vous débrouillez tout seul. Donc quand on annonce un risque important et que vous devez vous débrouiller tout seul, bah vous achetez des provisions. C'est pas plus compliqué que ça, alors que nous on attend que l'État le fasse un peu pour nous.
Le soir du 31 décembre, un peu avant l'horaire prévu du bug, c'est-à-dire minuit, un inquiétant présage se fait jour sur la Tour Eiffel.
Nous allons devant la Tour Eiffel, nous attend Stéphane Faure avec une étrange nouvelle. Le décompte de la Tour Eiffel est tombé en panne, c'est bien ça?
Ah oui, c'est un peu le bug avant l'heure. Ici Fabrice, il était environ 18h45 lorsque l'on a vu l'éclairage de la Tour Eiffel vaciller. Puis les trois quarts du troisième étage et dernier étage sont éteints, ainsi que le compteur qui est grainé depuis 1000 jours, le temps nous séparant de l'an 2000. La foule a manifesté son étonnement, son mécontentement par une grande clameur. Quelques minutes plus tard, le troisième étage s'est rallumé, puis l'écran a affiché un étonnant signe d'une sorte de J suivi d'un point surplombant un I et un T majuscule, incompréhensible donc, et puis maintenant il n'y a carrément plus rien sur l'écran. Alors au PC de la Tour Eiffel, on m'a confirmé de manière laconique que c'est un problème électrique qui a provoqué l'incident. On m'a aussi assuré que l'incident serait rapidement réparé, mais pour l'instant rien de nouveau donc, alors qu'une foule imposante s'est massée tout autour de la Tour Eiffel dans l'attente et maintenant dans l'espoir d'un spectacle qu'on nous a promis grandiose.
Vincent Balouet, jusqu'à la dernière minute, on pense que le bug peut survenir et causer de gros dégâts.
Alors, dernière minute, pas tout à fait.
Enfin là, sur la Tour Eiffel, on a l'impression que c'est le bug qui attaque.
Je fais la parenthèse sur la Tour Eiffel. La mairie de Paris a mis en place un compteur à J-1000 de la Tour Eiffel, mais ce que peu de gens savent, c'est que le compteur était faux. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés dans le calcul et se sont trompés d'un jour. Et donc, quand nous, informaticiens, si vous voulez, on calculait combien de temps reste-t-il, on arrivait toujours avec un jour d'écart. Donc, il n'y avait rien à faire. Et donc, nous, on avait des montres sur nos poignets qui nous donnaient le temps restant, qui était calculé automatiquement, si vous voulez. Et on voyait bien que quand on allait à la Tour Eiffel ou la montre, il y a un problème, il y avait un jour d'écart. Donc on se disait, de toute façon, ils vont être obligés d'y toucher au compteur, sinon on va passer le 30 décembre, on sera à J-0, quoi. Donc il va y avoir un problème à la fin. Et donc ils l'ont fait. Et c'est pour ça que tout à fait au dernier jour, on a plus J-temps, on avait H- et les minutes et les heures et les secondes. Donc ils ont traficoté le compteur. Et les mauvaises langues disent que c'est qu'en ouvrant l'électronique puis en la refermant alors que la tempête venait de survenir, ça aurait introduit de l'eau, un court-circuit, je sais pas quoi, et elle s'est cassée la gueule. Bon, c'est anecdotique, ça n'a aucun sens ni intérêt, si vous voulez, par rapport à ce truc-là. Mais juste quand même, nos amis australiens, la mission en 2000 du gouvernement australien, projetait sur son site internet du passage à l'an 2000 de l'Australie, la webcam du Trocadéro, avec le compteur de la Tour Eiffel faux, pour motiver tout le monde en disant « faites attention dans les calculs, c'est pas si simple que ça ».
Où est-ce que vous étiez, vous, le jour, l'heure, la minute du passage à l'an 2000?
Alors, c'est d'abord... Alors, bon, j'étais à Bercy, puisque j'étais en charge par le MEDEF, donc j'étais...
Donc, il y avait une situation room, en bon français,
ah bon, on était 400,
à Bercy.
À Bercy, il y avait 400 personnes, hein, donc il fallait regarder ça, et surtout donner confiance, encore une fois, et donner des messages pour rassurer tout le monde, tout en ayant vérifié que les infrastructures nationales tenaient bien. Et alors, par contre, pour répondre à votre question, l'an 2000, c'est pas à la minute près. Pourquoi ? Parce que la France est le pays du monde qui est le plus exposé en termes de fuseaux horaires. C'est Wallis et Futuna qui a commencé à basculer et c'est Tahiti qui a fermé. On est sur les 24 fuseaux et on est le seul pays au monde à faire ça. On a passé l'an 2000 avec un processus de vérification avec les ambassades, etc. 24 fois de suite, chaque heure, en disant tel pays est passé, nos ambassades là-bas, qu'est-ce que ça donne ? Nos entreprises là-bas, qu'est-ce que ça donne ? Etc. Et renvoyer un signal au ministre en disant... Pour nous, tout est clair, on a 30 minutes de repos et dans une demi-heure, on recommence. Et on a fait ça 24 fois.
Alors que les îles Kiribati, Samoa, Tonga, puis la Nouvelle-Zélande entrent dans la nouvelle année, aucune catastrophe n'est à signaler sur le plan informatique. Viennent ensuite l'Australie, le Japon, la Chine, puis les 12 coups sonnent à Dubaï, au Caire, à Nairobi, toujours sans alerte majeure, et c'est enfin au tour du fuseau horaire appelé UTC+1, dans lequel se trouve l'Hexagone, de franchir le seuil de l'année 2000. On a réussi à faire la fête ce soir-là, Vincent Balloué. 25 ans plus tard, on a une autre échéance, c'est celle du réchauffement climatique, un bug gigantesque et mondial. Est-ce qu'il y a des analogies à faire ?
Beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 sauf une. Le problème qu'on a avec le climat, c'est qu'on n'a pas d'échéance fixe dure, de hard deadline, comme disent nos amis américains. On a des soft deadlines, c'est-à-dire qu'on sait qu'à l'horizon 2030.
Donc on peut toujours négocier.
Ouais, donc on peut attendre. Voilà. Et c'est la grande machine à attendre qui est en marche et qui est infernale à arrêter, alors que nous, elle était très très simple à arrêter. On avait un compteur, le nombre de secondes qui s'écrénait, et on disait à nos interlocuteurs, si vous voulez pas le faire, pas de problème, et vous assumez. Quand on a des deadlines, on a du pouvoir. Et quand on n'a pas de deadline, on perd la main. C'est ce qui est en train de se passer. Nous, ça a été assez simple parce qu'on avait la main. Et donc, pour redonner la main aux scientifiques, il va falloir formaliser plus sérieusement les deadlines qui sont devant nous.
De la tempête Lothar à la perspective d'un collapse informatique, ces derniers jours de décembre 1999 ont été, rétrospectivement, une sorte de bande-annonce du 21e siècle entre risques technologiques et dérèglements climatiques. Pour sauver le climat, il nous manque aujourd'hui un génitron du climat, un compte à rebours pour que nos sociétés se mettent véritablement à agir. Salle des archives, le bug de l'an 2000, une série proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, Julie Béressy et Lily Corner. Prise de son François Saint-Jour, mixage Philippe Thibault. Merci à Vincent Balloué, fondateur de maîtrisedescrises.fr, ainsi qu'à Michel Polacco, ancien directeur de France Info.